Le lendemain matin, Virgile travailla d'arrache-pied sur les vieux documents qui s'entassaient au bout de sa table. Il triait, annotait, comparait sans relâche depuis les premières lueurs matinales. S'il ne parvenait pas à identifier l'auteur de la carte ancienne, il en avait trouvé le scriptorium d'origine. C'était au XIVe siècle, une abbaye célèbre dans toute l'Europe pour son école de grammaire, Medium Monasterium, devenue Moyen Moutier. Cette même abbaye, fondée par saint Idulphe, dont les pérégrinations faisaient l'objet du codex acquis par Basilevitch. Virgile ne comprenait pas pourquoi l'artiste avait passé autant de temps à faire un travail de débutant, alors qu'à son époque, il était sûrement l'un des meilleurs enlumineurs de France. Aucun doute possible, cette carte avait été exécutée par un maître. Celui-ci avait pris soin de faire lui-même ce travail ingrat. Il fallait que la raison soit impérieuse. Cette idée se trouvait renforcée par la qualité du parchemin. On n'avait pas utilisé un palimpeste comme cela se faisait couramment, et c'est sur une peau vierge que la reproduction avait été réalisée. L'énigme passionnait Virgile. Il passait tout son temps libre à tenter de la résoudre. Il avait réussi à traduire une grande partie des notes marginales. Il connaissait à présent les grandes lignes de l'histoire que racontait ce parchemin. Il ne comprenait pas pourquoi on avait écrit en araméen et non en latin, car l'auteur de l'un des cartouches était Eusèbe de Césarée, le chroniqueur de l'empereur Constantin. Le texte relatait les grandes étapes d'un voyage effectué au Moyen-Orient, en Galilée et à Jérusalem. Mais Virgile ne parvenait pas à identifier les voyageurs. C'étaient des personnages importants, parce que l'on n'équipait pas une caravane pour un prétexte futile. De plus, il était extrêmement rare qu'un convoi soit organisé pour une troupe aussi modeste, 3 personnes accompagnées de leur guide et de quelques serviteurs. Virgile se disait qu'il arriverait bien à bout de ce mystère. Au besoin, il recourrait au service de son ami Étienne, chercheur à la Sorbonne. Il avait le temps. Il préférait avancer pas à pas et tenter de mettre des noms et une histoire sur cette carte. L'auteur d'origine était inconnu. Cela, il en avait la certitude. Eusèbe de Césarée indiquait qu'il n'avait fait que transcrire une composition qui remontait à près de 300 ans. La question en suspens était la suivante. Quel était le but de ce voyage si important pour que 300 ans après, le chroniqueur de l'empereur, l'un des plus célèbres lettrés et surtout le plus grand historien de l'ère pré-chrétienne, prenne le soin d'en effectuer lui-même la copie? Y avait-il un secret à préserver? Était-ce pour éviter toute erreur que Zeb n'avait pas délégué la tâche? Et le copiste de Moyen Moutier? Quelles furent les raisons qui le conduisirent à observer le même comportement que le chroniqueur romain, 1000 ans après? Il fallait absolument que Virgile comprenne le but de ce voyage en Palestine. Il cherchait. Cherchait. 3 personnages importants, au tout début de l'ère chrétienne, voyageant en Galilée et en Palestine. Son instinct de chasseur lui disait de suivre cette trace-là. Qui pouvait-il être? L'affaire était passionnante. Son instinct lui soufflait que le manuscrit de saint Idulphe et la carte d'Eusèbe de Césarée étaient liés, puisque tous deux provenaient de la même abbaye. Il poursuivit son travail d'archivage et de classement, l'esprit occupé. À un moment, son regard accrocha la pendule. 16 heures. Il fallait se mettre en route. Saint-Just l'emmenait faire la connaissance d'une restauratrice d'œuvres d'art, Axuena. Elle était passionnée de culture grecque ancienne et byzantine et s'était spécialisée dans la restauration d'œuvres de cette région. Saint-Just avait fait sa connaissance depuis peu et comptait utiliser ses talents. L'antiquaire avait apporté le petit triptyque de l'adoration des mages destiné à Tontine et qui nécessitait une légère intervention. Lorsque le vieux monsieur fit les présentations, les deux jeunes gens sympathisèrent immédiatement. Axuena expliqua à Saint-Just comment elle procéderait pour redonner leur vivacité aux couleurs du petit triptyque. Pendant ce temps, Virgile flânait devant les tables de travail, admirant la qualité des travaux en cours. La jeune femme possédait une grande maîtrise et une vraie personnalité artistique. Ses esquisses, fusains, sanguines et aquarelles, le prouvaient sans l'ombre d'un doute. Ses productions apportaient une note particulière à l'atmosphère. Douceur et puissance mêlées, couleurs harmonieuses à la palette infinie. Le talent imprégnait les lieux. Virgile se sentait en communion avec la jeune femme. Tout en musardant, il l'observait discrètement. Axiona était aussi agréable à regarder que ses tableaux. Son assurance naturelle, alliée à une voix chaude et basse, mettait en confiance. Elle était captivante. Ses grands yeux noirs, très mobiles, venaient compléter l'impression d'ensemble. Se tournant vers lui, sourire aux lèvres, Axiona lui dit « C'est oui. »« Pardon ? » s'enquit-il, un peu surpris. « C'est oui pour le dîner. C'est bien cela que vous pensiez. Cela me fera très plaisir. Demain soir ?» Totalement déconcerté, il avait le sentiment qu'elle lisait dans ses pensées. Ce fut presque en rougissant qu'il lui demanda « Où voulez-vous aller dîner ? Quel est votre endroit favori ?»« À vous de trouver. Vous me ferez la surprise, j'adore ça. Vous passerez me prendre à 20h ici, je serai prête. » Et se tournant vers Saint-Just, qui n'avait pas perdu une miette de l'échange et se régalait de la confusion de Virgile, elle reprit. « Nous sommes d'accord, monsieur de Saint-Just. Ce sera un vrai plaisir pour moi de travailler sur ce tableau. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, et je sais que nous allons souvent nous revoir. N'hésitez pas à venir me voir pour une expertise, je le ferai gracieusement. J'ai tellement peu l'occasion de rencontrer de vrais amoureux de l'art. Je ne vois que des gens qui ont le mot « argent » à la bouche. » Avec vous, c'est comme une rosée de printemps, rafraîchissante au possible. Et vous, Virgile, j'ai lu dans vos yeux que vous aimiez mes peintures. C'est le meilleur compliment que je pouvais recevoir. Je suis réellement enchanté de vous connaître. Maintenant, il faut que je vous jette dehors tous les deux, car ce petit tableau byzantin me donne déjà des fourmis dans les doigts. J'ai une tonne de travaux à faire, et si vous voulez que je sois libre demain soir, vous devez me laisser me remettre au travail. » Arrivés chez Saint-Just, ils étudièrent le manuscrit de Basilevitch et commencèrent le travail fastidieux consistant à collationner tous les éléments ayant un rapport avec lui. Saint-Just recherchait dans ses nombreuses bibliothèques tous les ouvrages portant sur l'époque d'évangélisation et de construction des monastères. Virgile, quant à lui, utilisait les ressources modernes en pillant les mémoires numériques de la Bibliothèque nationale de France. Saint-Idulphe était connu. Son histoire, relatée dans la Vitae d'Ulfi, faisait état des miracles qui jalonnèrent la route du prélat. Sa vie a fait l'objet de nombreux ouvrages, dont les originaux ont disparu lorsque les bibliothèques abbatiales furent démantelées à la Révolution. Ce qui reste de ses livres se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque municipale d'Épinal. C'est là que Virgile devrait se rendre s'il voulait en apprendre davantage. Mais avant de songer à organiser ce voyage, il voulait plus d'informations sur la carte d'Eusèbe de Césarée. Il savait comment alléger le travail, en demandant l'aide de son ami Étienne, brillant chercheur en histoire médiévale à la Sorbonne. Virgile prit le chemin de l'université après avoir prévenu Saint-Just. Il était déjà trop tard pour y pénétrer puisque les cours étant terminés, alors les deux amis avaient convenu de se retrouver au café, situé à deux pas de là. Les deux compères l'avaient assidûment fréquenté quelques années plus tôt, lorsqu'ils étaient eux-mêmes étudiants. Accoudé à un guéridon, le visage enfoui dans un vieux bouquin, Étienne était reconnaissable à sa tignasse flamboyante. Il ne pouvait se targuer d'avoir un physique, mais c'était ce que l'on appelle un génie. Plus que brillant dans son domaine, son esprit avait arpenté tous les chemins de la connaissance. Il possédait un savoir encyclopédique, dont le point d'orgue, sa profonde connaissance du monde médiéval, lui valait d'être maître de conférences dans l'une des plus prestigieuses universités au monde. À l'instant où Virgile pénétrait dans le bar, Étienne lui fit signe. Les deux amis se saluèrent fraternellement, ravis de ce prétexte pour se retrouver. Leur vie trop trépidante ne leur permettait plus de se voir aussi souvent qu'ils l'auraient souhaité. « Montre-moi, » fit Étienne. « Je sais que tu ne m'as pas fait sortir juste pour le plaisir de me voir. Tu as quelque chose sur le feu et tu penses que je suis capable de t'aider. Ah, ce que c'est bon. Toi qui voles de succès en succès, toi, l'incollable en histoire de l'art, tu as besoin du petit bureaucrate que je suis. C'est un trop grand plaisir. Laisse-moi le goûter un peu. Allez, pardonne-moi, je suis taquin. Je suis sincèrement très heureux de te voir. C'est devenu trop rare. Il faudrait que tu viennes dîner plus souvent chez moi. Bon, maintenant, montre-moi. Si tu as besoin de moi, c'est forcément à cause d'un vieux parchemin que tu n'arrives pas à déchiffrer. Allez, donne. Tu as dû être détective dans une vie antérieure. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Ou plus précisément, à quoi cela te fait penser au premier abord ? Délicatement, le chercheur prit la carte, et après avoir déposé son verre sur la table d'à côté et nettoyé le guéridon, la plaça devant lui. Il fit abstraction totale du monde extérieur. Il entrait dans son univers personnel. Comme s'il n'était plus de ce monde que physiquement, son esprit s'envolant ailleurs. Il observa le document durant de longues minutes, puis commença à le manipuler avec des gestes doux. Aucune expression ne remontait à la surface de son visage. Impossible de savoir ce qu'il pouvait penser. Ensuite, il souleva la carte et la plaça en pleine lumière, la retourna encore et encore dans tous les sens, en prenant son temps. Il la reposa de nouveau sur la table et sortit d'une de ses poches une loupe à fort grossissement. Un petit raclement de gorge annonça que le premier examen était fini. Virgile avait l'impression de se trouver dans une salle de cinéma où l'on vient de rallumer les lampes, une fois la projection finie. Étienne dit « Intéressant, ça. J'avoue que c'est une énigme. Je n'ai jamais rien vu de tel, ni entendu parler de quelque chose s'en rapprochant. D'où tiens-tu cette carte ? Que sais-tu à son sujet ? Allez, parle, ou je te torture !» Virgile lui parla de son expédition, pour le compte de Basilevitch, ainsi que de l'étrange lien qu'il y avait entre cette carte et le vieux manuscrit. Durant ce temps, Étienne reprit un regard rêveur, tandis que sa cervelle de surdoué assemblait des éléments dont on n'avait pas la moindre idée. Puis, son regard redevint vif. « Je ne peux rien faire ce soir. Je n'ai pas le matériel nécessaire. Il faut que je consulte un de mes collègues de géographie. Ils ont un programme informatique capable de nous dire quels sont les lieux en question. Il suffit de numériser ta carte et le logiciel va la comparer avec des millions d'autres dans ses mémoires. Le grand avantage de ce logiciel est qu'il tient compte de l'évolution naturelle de la géographie, de l'érosion, du déplacement des plaques tectoniques et des changements de cours des rivières. Même si la topographie de ta carte a changé, on trouvera où ça se situe et à quelle époque avec précision. Il a été conçu en collaboration avec des météorologues, des ingénieurs en agronomie, des géographes, des archéologues, enfin pas mal de monde. Cette bombe technologique est encore en phase d'essai et je suis sûr que cette recherche va les intéresser. Tu peux me la laisser ? J'en ferai une copie auparavant, rassure-toi. J'en ai déjà plusieurs. Je me doutais que tu voudrais la garder quelques jours. Je te la laisse, mais s'il te plaît, sois discret. On ne sait pas encore avec quel secret nous sommes en train de jouer. Et je me méfie de certaines personnes peu scrupuleuses. Cela pourrait peut-être devenir dangereux s'il y a beaucoup d'argent à gagner. N'aie crainte, j'ai l'habitude. Les manuscrits sur lesquels je travaille valent des fortunes. Cette carte ne sera vue que par mon collègue, et j'ai toute confiance en lui. Fais-moi aussi un jeu de copie de ton manuscrit sur Saint-Idolphe. Je ferai aussi quelques recherches de ce côté-là. Il est possible que tu aies mis la main sur un exemplaire unique. Si l'université avait su cela plus tôt, nous aurions tenté de trouver un accord avec un musée pour qu'il soit racheté et demeure en France. Dommage. Trop de belles choses partent à l'étranger pour moisir dans des collections privées où plus personne n'en profite. Ah, je partage totalement ton point de vue. Tu sais qu'aussi souvent que possible, nous prévenons les musées, mais cette fois-ci, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver. Il est de plus en plus rare de découvrir des inédits ou des manuscrits perdus. On ne peut pas crier au loup à chaque fois. Hélas. Cependant, tu as eu une idée fabuleuse en prenant des photos. Tout ne sera pas perdu. Bon, allez, je dois filer. Il se fait tard et je veux pouvoir encore passer un peu de temps avec mes enfants avant de les envoyer au lit. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Cette journée n'en finissait pas. Les heures s'égrenaient interminablement. Virgile avait l'impression que le temps ne s'écoulait plus. Il n'avançait plus dans ses recherches. Il avait déjà vu et revu toute sa bibliothèque et pillé les magazines spécialisés. Il avait assailli Saint-Just au téléphone en lui demandant tout et rien. Il trépignait d'impatience. Il ne pouvait pas déranger Étienne. Il fallait attendre le résultat de ses études. Et il ne pouvait pas non plus faire accélérer le cours du temps. 20 heures. Cela paraissait encore si loin. Tant de choses imprévues pouvaient encore survenir. Il ne supportait pas l'idée que son rendez-vous avec Axuena puisse ne pas avoir lieu. Il pensait à elle la moitié du temps, et l'autre moitié à son enquête. Rien n'arrivait à le distraire plus de quelques instants de cette obsessionnelle vision, la chevelure noire de la jeune femme. Et rien à faire pour s'occuper l'esprit, ni personne à voir pour tuer les heures. Tontine était partie dans sa maison de campagne, en Normandie, et ne reviendrait qu'en fin de semaine. Saint-Just était accaparé par le rachat d'une succession. Tous ses amis semblaient avoir fui Paris. Il se trouvait totalement désœuvré, et cela ne lui convenait absolument pas. Enfin, le téléphone sonna, et il put se rendre à la Sorbonne. Étienne avait fini d'étudier en partie les clichés du manuscrit de Trèves et souhaitait le voir tout de suite. Ils auraient dans peu de temps le résultat de ses recherches géographiques de la carte. Virgile ne se le fit pas dire deux fois. À peine avait-il reposé le combiné qu'il volait déjà vers la station de taxi la plus proche. Étienne l'attendait près de l'entrée, avec le sourire des jours de fête. « Je crois que tu as mis la main sur quelque chose de vraiment très spécial. Allez, viens, allons dans mon bureau, j'y attends mon collègue. »« Alors, tu as identifié l'endroit ? Est-ce que c'est bien en Palestine ?» Virgile ne contenait plus son impatience. Il avait questionné son ami durant le parcours, mais peine perdue. « Je ne sais pas. Nous allons voir ça avec mon collègue. En ce qui concerne ton manuscrit, c'est autre chose. J'ai découvert... C'est ahurissant. Je ne sais pas comment m'expliquer. Bah, commence par le début. Ce que tu as trouvé depuis ce matin, lorsque le coursier t'a remis les photos. Oui, tu as raison. Écoute-moi bien. » Primo, ton manuscrit est un original, parfaitement inconnu. Il n'est référencé nulle part. Pourtant, ceux qui l'ont rédigé sont des célébrités de leur époque, et nous ne comprenons pas pourquoi il n'a jamais été fait mention de leur contribution dans toute la littérature spécialisée. Totalement illogique. Deuxio, il a été composé sur plusieurs périodes. Il semble que l'on a assemblé des pages qui n'étaient pas destinées à figurer dans le même ouvrage. Tertio, ton manuscrit rapporte l'histoire d'un autre manuscrit. On se croirait dans un roman feuilleton à l'époque médiévale. Invraisemblable. Si je ne te connaissais pas, je dirais qu'on essaye de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Je n'ai pas pu faire autrement que de montrer tes épreuves à mes collègues. Ils en sont restés sur le cul. Et il en faut pour nous étonner, crois-moi. C'est monté jusque chez Charpentier. Imagine que ça remue du monde. Ta petite histoire. Tu veux dire le charpentier? Le professeur d'histoire mondialement connu? Le spécialiste du haut Moyen-Âge? Celui-là. Et en plus, il était ravi de tomber enfin sur quelque chose de nouveau. Il n'avait pas vu cela depuis bientôt 30 ans. C'est une sacrée affaire. Donc, tu comprends que j'ai dû expliquer les tenants et aboutissants. Mais ne t'inquiète pas. Esprit de corps oblige, rien ne transpirera en dehors de l'équipe. Pour commencer, peux-tu m'expliquer ce qui vous met dans un tel émoi ? Ben, tu ne comprends donc pas. Ton manuscrit, en plus d'être inconnu de toutes les bibliothèques, ce qui lui donne déjà une valeur commerciale que je n'essaie même pas d'évaluer, a été rédigé par les plus grands ecclésiastiques de tous les temps, depuis Macaire, le premier évêque de Jérusalem, jusqu'à Pie XII. C'est totalement incroyable. C'est une page inconnue de l'histoire de la chrétienté que tu tiens dans ta main. Pourtant, je n'ai rien vu d'aussi important lorsque je l'ai étudié la première fois. Ça ne m'étonne pas. C'était fait pour. Mais certaines pages nous ont mis la puce à l'oreille. Quand j'ai reçu tes épreuves, je les ai données à l'un de mes étudiants. Il ne s'en sortait pas. Il me disait que tout cela n'avait ni queue ni tête. Les événements ne s'enchaînaient pas logiquement. Il y avait des non-sens. Enfin, cela donnait l'impression d'un remplissage, mais absolument pas d'un livre. Or, Tu sais comme moi qu'à cette époque-là, on ne s'amusait pas à gâcher le parchemin. Eh bien, mon étudiant avait raison. J'ai repris la traduction et je me suis aperçu du subterfuge. Tu n'as pas eu l'impression que ce manuscrit était sale, mal soigné, enfin, qu'il avait une mauvaise allure ? Si, un peu. Je me suis dit qu'il avait été réalisé par des gens qui réutilisaient des parchemins mal grattés. Tu parles. Les trois quarts de ce qui est écrit, c'est bien du remplissage. Je l'ai montré aux collègues pour avoir leur avis, et ils ont tous buté. Charpentier, passant par là, a demandé ce qui provoquait ce tumulte. Je lui ai soumis les photos, qu'il a, illico, emportées dans son bureau. On ne l'a revu que 2 heures plus tard. Il était arrivé à la même conclusion que nous tous, sauf qu'il a poussé plus loin. Il a utilisé un projecteur à très fort grossissement, avec des lentilles de différentes couleurs, et a trouvé le texte derrière le texte. Ton manuscrit est une supercherie. Pas dans le sens où c'est un faux, bien au contraire. On s'est donné un mal fou à cacher ce qui est écrit derrière des textes sans importance. Au premier abord, ce livre n'attire pas l'attention. Seule une étude un peu plus poussée permet d'en comprendre toute l'importance. Nous n'avons pas fini de l'étudier. Nous avons déjà appris un certain nombre de choses fort troublantes. La technique reste étonnante en cela qu'elle est différente de toutes celles qui furent utilisées à la même époque. Pour lire le parchemin, il faut une loupe à très fort grossissement qui te permet de voir ce qui souligne la prose apparente, un peu comme si un élève pas très soigneux avait mal gommé son surlignage. C'est réellement prodigieux. Nous n'avons pas fini de déchiffrer toutes les pages, et d'ailleurs, elles ne sont pas toutes truquées. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce livre raconte l'histoire d'un manuscrit évoquant un trésor. Ah, mais ça alors, ma carte parle aussi d'un trésor. Eh oui, nous sommes sur la piste de quelque chose. Charpentier est furieux. Pense donc, l'original nous a échappé. Il veut absolument te voir. Il veut racheter le manuscrit. Je ne crois pas qu'il y parvienne. Il faudra se contenter des photos. On peut peut-être trouver l'autre manuscrit dont il est question, ou le trésor dont parle la carte. Je pense que c'est la même chose, car ce que tu ne sais pas, c'est que l'un des auteurs d'un passage du manuscrit est aussi le copiste de la carte. Ces deux objets ne sont pas seulement liés par une même abbaye, mais aussi par un même personnage. Ah, je vois arriver mon collègue de géographie. Nous allons savoir un peu plus. Les salutations furent minimales. Le géographe était trop pressé de partager ses découvertes. C'est un exercice très amusant que nous avons eu là. Voici ce que nous avons trouvé. Du point de vue géographique, cette carte représente la Palestine à l'époque romaine. Du point de vue historique, nous avons réussi à dater le premier dessin aux alentours de l'an 1 du calendrier chrétien. Je dis le premier dessin, car il y en a deux. Tous deux bien distincts. Un premier qui évoque des déplacements dans toute la Palestine et la Judée, et qui comporte des symboles pour chacun de ces déplacements. Puis un second tracé, que nous datons aux environs de l'an 320-330, qui part de Jérusalem jusqu'à Bethléem, puis retourne dans l'autre sens jusqu'à Nazareth, et revient à son point de départ, avec, lui aussi, ses propres symboles. Cette carte nous permet de confirmer des hypothèses sur le tracé des routes, les lieux d'étape et les centres de commerce de cette période. Nous n'en avons pas encore fini l'étude, mais nous avons déjà beaucoup d'éléments. Je ferai une communication à tout le département d'histoire ce soir à 18h et... Ah non, non, ce n'est pas possible, s'exclama Virgile. Ce soir, j'ai pris un engagement extrêmement important que je ne peux absolument pas remettre. Ne vous inquiétez pas, reprit le géographe, nullement troublé par l'air catastrophé du jeune homme. Je vous en donnerai l'essentiel vers 17h. L'horaire de conférence que je viens d'indiquer ne concerne que les collègues du département. Vous, vous aurez droit à une avant-première. Je ne peux pas plus tôt, car il y a encore des hypothèses que je dois vérifier. Je n'aime pas avancer des arguments sans les avoir confirmés par d'autres sources. Croyez-moi, les ordinateurs et les cervelles tournent à plein régime. Je vous revois en fin d'après-midi. Étienne vous guidera jusqu'à mon bureau. Allez, je vous quitte, car j'ai énormément de travail. « Tu vois, » dit Étienne, « les choses prennent bonne tournure. Nous allons apprendre plein de choses sur une période mal connue. Et surtout, tes documents vont nous permettre de vérifier certains faits historiques majeurs. Je suis content. Mon intuition ne m'avait pas trompé. Il y a bien un rapport étroit entre cette carte et le manuscrit. En effet, ces objets sont liés. Le copiste qui a dessiné cette carte au XIe siècle est aussi celui qui a écrit une partie du manuscrit. Je suis formel. Vois-tu, nous sommes capables aujourd'hui de transposer les techniques de la graphologie vers la paléographie. Non pour analyser la personnalité des copistes, mais pour les identifier avec certitude lorsque leur sigle personnel ne figure pas sur l'ouvrage ou lorsque le temps l'a effacé. Qui est donc ce mystérieux personnage ? Un certain Michel, moine au scriptorium de l'abbaye de Moyenmoutier. Il serait resté totalement inconnu s'il n'avait fait partie de la suite du pape Léon IX. Il a été mêlé de près à l'excommunication de Michel Cérulaire, ce qui a conduit au schisme en 1054. Et de quoi parle donc ce manuscrit ? Pour le peu que j'ai étudié, ce ne sont que les récits du quotidien d'une abbaye. Et tu me dis qu'il y a un autre récit derrière celui-là ? Oui. Et vois-tu, c'est cela qui est époustouflant. Toute la partie cachée parle de l'existence d'un livre secret, bien plus précieux que tous les autres. Ce livre a aidé les papes à construire l'Église romaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. S'il existe vraiment, s'il existe encore, il est d'une valeur incalculable. Pourtant, personne n'en a jamais entendu parler. C'est un secret qui a été jalousement gardé. Si toutefois ce n'est pas une supercherie, comme il y en a tant eu dans l'histoire. Mais je ne le pense pas. On n'aurait pas cherché à dissimuler un faux. L'Église se serait contentée de le dénoncer ou de le faire détruire. Je suis dans la même situation que mon collègue. Il me faut encore quelques heures pour t'en dire plus. Les copies que tu m'as remises sont en cours d'analyse. Nos programmes d'identification vont rechercher les différents auteurs, ce qui nous permettra de dater avec exactitude chacune des parties du manuscrit. Et alors seulement, les chercheurs pourront étudier les textes et les comparer avec ceux que nous connaissons. C'est fabuleux. Tu n'imagines pas le cadeau que tu viens de me faire. Tu m'en vois ravi, bien que je m'inquiète un peu. J'ai l'impression que c'est devenu le secret de Polichinelle. Mais non, ne crois pas cela. Nous autres chercheurs, nous nous emballons lorsque nous mettons la main sur des pièces d'une telle valeur. C'est bien naturel. N'oublie pas que nous sommes en concurrence les uns avec les autres. Non, rassure-toi, rien ne transpirera en dehors de l'équipe de charpentiers. Nous avons trop d'intérêts en jeu pour ébruiter l'affaire. Reviens me voir un peu avant 17h et je te ferai le point sur nos premiers résultats. En sortant de la Sorbonne, Virgile se demandait comment occuper ce qui lui restait de temps jusqu'à sa prochaine rencontre avec l'équipe du professeur charpentier. Les révélations d'Étienne le laissaient indécis. Comment faire avancer son enquête ? Il se rendait compte que sa culture historique ne suffisait pas. S'il connaissait bien les antiquités, les reliques ne lui étaient pas familières. Il avait fréquenté le catéchisme lorsqu'il était enfant. Tontine jugeait que cela faisait partie d'une éducation occidentale. Mais il n'avait pas de réelle formation concernant la religion. Il faudrait trouver de l'aide. Tout naturellement, il pensa au curé, dont Tontine faisait grand cas. Il lui rendrait visite, car l'ecclésiastique connaissait tout le monde à l'évêché. Il pourrait lui indiquer quelqu'un pour le guider. L'église Saint-Roch n'était pas loin de chez Tontine. La vieille dame fréquentait régulièrement ce sanctuaire, dont elle appréciait particulièrement les grandes orgues. Les peintures qui ornaient les chapelles en faisaient un but de visite touristique. Mais c'était l'architecture qui émouvait Tontine. De grands bâtisseurs comme Ardouin Mansart en avaient fait l'une des plus grandes et des plus belles églises de Paris. Le père Gratien était le plus connu de ses curés. Homme affable et souriant, il faisait le succès de son église par la qualité de ses sermons. Loin des apostrophes vengeresses sur les péchés de ses ouailles, il préférait user de sa grande compréhension des faiblesses humaines et leur rappeler sans cesse que l'on peut se bonifier. Le père Gratien était non seulement reconnu pour sa piété et sa sollicitude, mais aussi pour avoir aidé beaucoup de résistants lors de la guerre. Ce fut à cette époque qu'il fit la connaissance de Tontine. L'amitié sincère qui les liait depuis ne s'était jamais démentie. Virgile avait suivi les cours de catéchèse du vieux prêtre, subjugué par les belles histoires que leur contait ce bon curé. C'était toujours avec émotion que Virgile revoyait le père Gratien. Le vieux prêtre restait associé aux souvenirs de l'enfance, et le jeune homme avait gardé une grande affection pour cet érudit qui lui avait donné ses premières leçons de latin. Virgile pénétra dans l'église esprit confiant. Il aperçut la chevelure argentée qu'il connaissait bien et se dirigea vers la silhouette qui se recueillait devant l'autel. Mais n'osant pas déranger l'homme en prière, Virgile s'assit sur un banc et laissa ses pensées dériver doucement, au gré des sentiments qui venaient en surface, comme des feuilles glissant sur un étang. Il se sentait confiant dans la vie et il commençait à imaginer le futur en y mêlant une certaine jeune femme. « Est-ce le Seigneur qui t'inspire ainsi, mon enfant ?» lui dit une voix douce. « Verrais-tu les anges ? Parce qu'à ton sourire, c'est l'impression que tu donnes. » Tout à sa rêverie, Virgile n'avait pas vu le père se relever et se diriger vers lui. « C'est bien un ange que je pensais, mon père, mais elle appartient à ce monde-ci. »« Ah, me diras-tu qui est l'élu de ton cœur ? Viens avec moi, allons dans ma pièce de travail. » Ici n'est pas le lieu où faire entrer tes confidences profanes. » Et tout en lui tenant le bras d'un geste affectueux, le vieil homme le guida vers une petite porte donnant sur la partie réservée au prêtre. Devant une tasse de café, Virgile conta ses dernières aventures. Le vieillard l'écoutait d'une oreille attentive, demandant par-ci, par-là, une précision. Il sourit d'aise lorsque Virgile lui parla d'Axiona, mais n'interrompit pas le récit de son protégé. Ce ne fut que lorsque Virgile en arriva à la partie concernant le manuscrit que l'homme d'église ne put contenir sa curiosité. Tout à coup, il lui fallait tous les détails. Non, il ne savait rien d'un tel manuscrit, encore moins d'un livre secret enfoui dans les cryptes d'une abbaye. Peut-être qu'à l'archevêché, Virgile trouverait la réponse à certaines de ses questions. Le père Gratien lui proposa d'y aller ensemble. Peine perdue. À l'archevêché, personne n'était capable d'aider Virgile. Les archives diocésaines n'avaient été constituées qu'à partir de 1802, et tout ce qui était antérieur avait été confisqué lors de la Révolution et remis aux bibliothèques publiques. C'était à la Bibliothèque nationale que le jeune homme satisferait sa curiosité. Virgile en prit le chemin, après avoir remercié le père Gratien. Il l'avait assidûment fréquenté, lorsque, étudiant, il passait tout son temps libre en compagnie d'Étienne à se régaler de livres anciens. La nouvelle bibliothèque, sur les quais de Seine, ne pouvait offrir au public la même âme que le site Richelieu. Virgile entra dans ce temple de la culture où il se trouva vite confronté à un problème essentiel. Que cherchait-il exactement ? Il ne trouverait rien dans cette immensité s'il ne savait identifier précisément l'objet de sa quête. Mais voilà. Il n'en savait trop rien lui-même. Bien sûr, il avait besoin de renseignements sur l'histoire de l'Église. Mais sur quelle période? Quel domaine précis? Il ne pouvait répondre à ces questions. Il avait aussi besoin d'informations sur les abbayes, leurs copistes et enlumineurs. Mais là encore, qui ou que cherchait-il pour que l'on puisse lui dire « Allez voir tel livre, placé à tel endroit ?» Cela n'était pas possible. Il savait qu'il cherchait à l'aveuglette et y perdrait ses forces et son temps. Il prenait conscience qu'il lui fallait réellement l'aide de quelqu'un. Tout à coup, il se sentait inutile. Virgile, qui ne savait plus quoi faire, marcha en remâchant ses difficultés. Sans qu'il y pense, ses pas le conduisirent à l'entrée du jardin du palais royal. Il y entra. S'asseoir sur un banc et prendre le temps de réfléchir lui paraissait la meilleure chose à faire pour l'instant. L'un de ses professeurs au lycée lui avait dit « Quand tu ne peux répondre à une question, vide ton esprit, pense à autre chose. À force de te focaliser dessus, tu ne fais qu'engendrer du stress. Reprends ton calme, décontracte-toi, puis remets-toi au travail. » C'est exactement ce qu'il fit, mais cela ne l'avançait pas. Sur le banc voisin, un loubard le regardait. L'homme avait la cinquantaine et avec ses jeans délavés, ses cheveux longs couleur poivre et sel, ses boots, ses bagues à tous les doigts et des pins accrochés partout sur son blouson de cuir noir, il avait une allure plus que louche. « Hé, compère !» l'apostropha l'homme. « Pourquoi n'es-tu pas d'humeur joviale au sein de cette flore et sous ce beau soleil ? C'est péché que de faire grise mine !» Virgile fit comme s'il n'avait rien entendu. N'obtenant pas de réponse, l'homme vint s'asseoir à côté de lui. « Mauvais chrétien, va ! Jetterais-tu ton pied dans les côtes d'un pauvre chien venant te lécher la main ?» Virgile, interloqué, croisa le regard de l'homme. Ses yeux gris pétillaient de malice, et allait donc savoir pourquoi ce regard-là faisait totalement oublier l'accoutrement du personnage. « Même s'il fait beau, ça n'enlève rien à mes problèmes, » répondit le jeune homme. Quel problème peux-tu donc avoir, toi, sans qu'il autre ? Mais je remarque que tu m'avais bien entendu à l'instant, et tu as fait le sourd. Ce n'est pas très joli. Pourquoi refuses-tu la main tendue ? L'amitié, même passagère, réjouit le cœur du vagabond, autant que celui du nanti, tu ne le sais pas ?
Le phrasé de l'homme l'étonnait. On y percevait une richesse de vocabulaire qui démentait son style vestimentaire. La chaleur de son regard laissait croire que l'homme était un illuminé ou un drogué, mais son sourire était une invitation à faire la paix avec l'existence. Il avait un curieux don assez troublant pour désarmer ainsi la méfiance et attirer la sympathie.
Virgile sentait que cet illuminé-là n'était pas ce qu'il semblait être. C'était une vague impression à la lisière de sa conscience.
« Qu'en savez-vous si je n'ai pas de problème ? Vous ne me connaissez pas ? »
« Détrompe-toi, mon frère. Je te connais comme je connais le cœur des humains, car j'en suis un. Tu ne peux pas avoir de si graves problèmes que cela t'empêche de rendre le salut donné. Où vivrais-tu en sauvage ? En général, ce n'est pas le cas des gens qui fréquentent le père Gratien. »
Virgile resta muet. D'où cet inconnu connaissait-il le père Gratien ? L'homme semblait s'amuser prodigieusement de la situation.
« Je connais bien Gratien. C'est un vieux camarade. Je t'ai aperçu avec lui du fond du couloir, tantôt, à l'archevêché. Il est alors normal que je t'adresse la parole et que je te donne le bonjour, même si tu as l'air de ne pas croire que c'en est un.
Vous m'avez suivi ?
Mais non, bêta, c'est le hasard. Enfin, toi, tu dirais que c'est le hasard. Moi, je préfère parler de providence. J'ai donné rendez-vous ici à mes ouailles que tu vois près du jet d'eau, là-bas. Ce sont mes pensionnaires que j'ai emmenés faire une balade à la capitale, parce qu'ils l'avaient bien mérité. C'est leur récompense pour avoir bien travaillé. »
Virgile jeta un œil aux pensionnaires en question et s'aperçut que c'était une bande de jeunes à mauvaise allure.
« Ah, vous êtes éducateur ?»«
En quelque sorte. Je suis surtout curé. »
« Je me présente, abbé Gassler, pour te servir, compère, si tu veux bien de ma main tendue. »
Virgile était interloqué. L'homme qu'il prenait depuis tout à l'heure pour un original était prêtre et ami de Gratien.
« Comment connaissez-vous le père Gratien ? » demanda-t-il. « Nous avons des contacts permanents, lui et moi. Il collecte des fonds pour ma ferme éducative, là-bas, au fin fond des Cévennes. C'est pourquoi tu me vois jouer les chaperons avec cette troupe de jeunes. » Ils ont commis de lourdes fautes, mais s'ils acceptent de s'amender sincèrement, je les prends avec moi, et je leur apprends à vivre autrement.
Et toi, comment connais-tu Gratien ?
C'est un ami de Tontine, ma grande tante qui m'a élevé. Il était le curé de la paroisse, et m'a appris les bases du latin.
Quand je disais Providence, Alléluia ! Tu es le petit de Tontine, c'est le Seigneur qui nous a placés ici aujourd'hui. C'est à elle que je dois les fonds que Gratien collecte pour ma ferme. C'est grâce à ses dons et à son intervention en haut lieu que cette aventure a pu se faire.
Ah, quel jour béni ! Alors, tu vois, je vais sûrement pouvoir t'aider. Dieu y pourvoira.
Eh bien, c'est un peu compliqué.
Dieu ne m'aurait pas mis sur ton chemin si c'était aussi simple.
Commence par le début et n'oublie rien.
Virgile raconta tout. Il se libéra de ses doutes, sachant que Gassler était homme d'expérience. Il lui dit tout de ses recherches, de ses découvertes, de ses espoirs, de ses incertitudes, et aussi de son cœur, battant follement à la pensée d'Axuena, rencontrée seulement la veille. Les deux hommes échangèrent leur vie, pour quelques instants, sur le banc du square. La Providence s'était montrée bienveillante aujourd'hui. Gassler connaissait l'homme qui pourrait aider Virgile. Gassler se chargeait de nouer les contacts. L'amitié naissait. L'un des souvenirs que Virgile garderait de cet homme de cœur survint au cours de leur conversation. Entendant des ricanements révélateurs, Gassler s'était approché discrètement des jeunes pour voir ce qui les divertissait tant. « Prudence est mère de la sûreté », se plaisait-il à dire. L'un des adolescents s'amusait à lapider un pigeon qui s'était posé là pour picorer les miettes tombées au sol. Gassler, avec une rapidité étonnante et une force peu commune, avait soulevé de terre le petit imbécile et lui avait administré une paire de gifles retentissantes. Revenu immédiatement auprès de Virgile, il s'expliqua.
« Quand la tête n'est pas capable de comprendre, c'est par le corps que je les éduque. Une bonne claque évangélique peut avoir plus de force qu'un sermon.
il y pensera plusieurs fois désormais, avant de s'en prendre à plus faible que lui. »
Virgile se rendait compte que l'abbé était bien plus complexe que ne le laissait présager son apparence. L'homme lui plaisait prodigieusement, ayant su s'émanciper des faux principes pour ne conserver que l'authentique. Sa foi et sa bienveillance étaient palpables, et son refus de la méchanceté et de l'hypocrisie tout autant. Loin des sentiers battus, Gassler pratiquait son ministère avec dévotion, mettant ses préceptes en pratique sans hésiter à se jeter à l'eau ou à utiliser la force pour répondre à la force. Il avait interprété à sa façon la parole du Christ « Il faut tendre l'autre joue » et savait parfaitement rendre à César. Ils se séparèrent comme de vieux amis.